Bon, à partir d'une telle image, de Raffaelli précisément, ce peintre dont l'admirable exposé de Joy Newton donne rappeler tout l'intérêt, ma communication, mesdames, messieurs, se situe à côté, dans tous les sens, de l'iconographie proprement parisienne. Ce sujet d'élection pour les peintres, bien sûr, et pour Zola et ses critiques. La banlieue, par contre, qui peut s'y intéresser? Car même ceux d'entre nous qui habitent en banlieue, même anglaise, ou surtout anglaise, ne répondent pas à sa gloire esthétique. Cette banlieue, toutefois, est accordée par les contemporains de Zola un statut qui dépasse de loin le thème usé et abusé par superfétation et par extrapolation, à savoir l'opposition nature et culture localisée dans la rencontre de la ville et de la campagne. Car il ne s'agit pas d'une juxtaposition symbolique, il s'agit plutôt d'un entrecroisement, dépourvu de structure signifiante. On le sait, c'est un terrain vague. Et au sein de ce terrain vague, une série d'antithèses délimitées, tissu urbain, ruralité, etc., cette série d'antithèses ne se discerne qu'à travers un point de vue rendu problématique par une extériorité préalable. Cette banlieue, visitée ou traversée grâce à ces voies de transport qui font elles-mêmes partie de son iconographie, cette banlieue s'imagine difficilement. Un soi-disant voyage de banlieue, à l'époque, peut varier entre 4 et 50 kilomètres. Et les rapports du centre et d'une périphérie en pleine expansion subissent une mutation dont la portée est autre que celle qui est récupérable par la géographie. La figurer, cette banlieue, c'est donc vouloir saisir une image mouvante. Ah, ça c'est important. Merci Jean-Pierre. Bon, l'image même brouillée. Alors, j'ai pas confiance en toi, hein, après. Voilà, ça va. Bon, c'est vouloir saisir une image mouvante et doublement mouvante, car si l'on doit fixer la dynamique irrégulière de la croissance urbaine, il faut se rendre compte également que les conditions de la représentation sont marquées par une pareille instabilité, c'est-à-dire la conscience de classe de l'artiste, la conscience du décalage entre la perception et sa transcription. À beaucoup d'égards, me semble-t-il, il serait donc admissible de considérer la banlieue comme le site du moderne, en tant que s'y réunissent les problèmes de la définition et de la désorientation. Et c'est dans une telle perspective que doit se situer une réflexion sur sa représentation chez Zola et les peintres. Ce n'est nullement mon intention d'ailleurs d'élaborer cette formule selon laquelle un Raffaelli, par exemple, serait Zola fait peintre. Cette réflexion a plutôt deux points de départ. L'hypothèse d'abord, qui veut que la peinture hante à ce point, qu'elle passe à l'époque pour le lieu où se regroupent tous les signes. Et deuxièmement, à côté de cette hypothèse, une certitude textuelle, passée trop souvent sous silence, notamment que les Rougon-Macquart commencent et se terminent en banlieue. Le tout premier paragraphe de ses origines, rappelons-le, c'est-à-dire la fortune des Rougon, évoque un terrain vague, et la fameuse boucle se boucle dans le docteur Pascal, et, je cite, « aux portes de la ville ». Le titre de ma communication doit être pris à la lettre. Il n'y a pas une seule représentation de la banlieue contemporaine. Il y a des images de celle-ci se contestant, pour ainsi dire, le droit de citer. Et tirant de cet assemblage hétéroclite qui est la réalité statistique et administrative, tirant de cette réalité, non pas ce que l'on peut voir, mais ce que l'on veut y voir. La prolifération de ces images date de 1859-1860. C'est le 1er janvier 1860 qu'est mise en vigueur la loi supprimant définitivement les barrières de Paris. Et ce qui nous intéresse plus directement dans le contexte de ce colloque, c'est que c'est ce moment qui signale l'apparition d'innombrables publications consacrées à l'éclatement de la ville, publications qui sont illustrées. Le discours explicite affichant ainsi son dialogue avec le niveau iconographique. Un discours plutôt progressiste, surtout dans tous ses guides indiquant dans la jungle folklorique des environs de Paris les bons endroits pour boire, manger, bals, spectacles, fêtes de village. Pour Adolphe Johann, tout dans la banlieue n'est qu'ordre et volupté. Alignement de charmantes maisons de campagne et promenades délicieuses. Il n'en est pas question, évidemment, ni de s'arrêter à Clichy-la-Garenne, ni d'en fournir une illustration. Louis Baron, par contre, y dirige un autre regard et le traduit en image dominée par une noirceur démesurée. Selon lui, Clichy, ce gros bourg industriel, avec ses masures hideuses suintant le vice et surtout la misère, Clichy n'est que le plus grotesque exemple de la transformation de la banlieue de Paul de Kock en banlieue lépreuse. Cette zone neutre est le territoire des déshérités, imprégné des odeurs nauséabondes dégagées par toutes ces colonnes fumeuses fermant l'horizon ou mènent des routes d'une accablante monotonie. Et Louis Baron, dans son gros ouvrage de 1886, « Les environs de Paris », met l'accent non sur une évolution urbaine, mais sur une irrégularité choquante. La banlieue se visualise sous le signe de la confusion et du désordre, et surtout sous celui de l'incohérence. Ce dernier terme de Baron mérite d'être retenu. La banlieue peut s'imaginer comme un enfer, la fameuse Sibérie parisienne, ou, chez ses partisans, comme un paradis relatif. Il n'en reste pas moins frappant qu'un panorama même admirable n'exclut pas un spectacle curieux où l'indéfinissable et la singularité d'un assemblage confus laissent l'esprit, je cite, « pensif, inquiet ». Il n'est donc nullement surprenant que cette même inquiétude s'enregistre dans les tableaux des peintres qui ont fait de la banlieue un site d'élection. Il serait superflu, voire impossible, d'en dresser un inventaire exhaustif. Mais dans beaucoup de ses œuvres où s'équilibrent les éléments traditionnels et nouveaux du paysage français, si équilibre il y a, il est souvent précaire. Les brillantes analyses de Timothy Clark nous ont appris de regarder de plus près, dans ces paysages impressionnistes censés être riants, les motifs témoignant d'un envahissement progressif de l'appropriation urbaine et capitaliste. À côté de maintes célébrations d'un port de canotage, n'oublions pas les étonnantes usines à Asnières de Van Gogh, les gazomètres Clichy de Signac donnent raison à la fois aux commentaires de Louis Baron la même année et au regard esquivant du guide Johann. Le coucher du soleil à Ivry d'Armand Guillaumin n'a sans doute rien d'ambigu. En général, c'est de façon moins mélodramatique que les représentations de la banlieue laissent percer une véritable contradiction plutôt que de nous offrir un correctif. Et elle s'avère dans la tension entre réconciliation et refus, à l'intérieur de l'encadrement même de cet espace et de labour et de loisirs. À cet égard, l'œuvre de Pissarro, surtout après la Commune, est exemplaire. Mais il est loin d'être le seul peintre qui soit conscient d'une discordance. La géométrie du bâti est l'informe, pont gigantesque, trottoir, murs et arbres bien alignés, les lignes de chemin de fer et le trafic des fleuves à travers le feuillage, cheminées industrielles et chaumières, vapeurs et nuages superposés. Ce qui n'implique pas forcément une harmonie. Monet en 1874, nous révèle un pont d'Argenteuil dénué de plaisir. La route de Sèvres, de ciselée, n'est plus celle de Corot. Et dans le terrain vague de Van Gogh, si indistincte que soit sa relation avec la ville, il n'y a rien de vague dans les détails discontinus d'une marginalité vécue par des marginaux. Tout catalogue générique, d'une telle sorte, doit anticiper une objection possible. N'y a-t-il pas, quand même, une énorme différence entre ces destinations à plusieurs minutes de la gare Saint-Lazare et la banlieue plâtreuse et désolée où piétine Gervaise dans l'Assommoir, c'est-à-dire entre Asnières, par exemple, et la pente de Montmartre. Alors c'est revenir justement au problème de la définition, à savoir, selon la question posée mais non résolue dans la préface d'un catalogue pour une exposition consacrée aux peintres de la banlieue, à savoir, et je cite, « Où cesse, où commence la banlieue ?» Dans le Grand Larousse contemporain, ainsi que chez Littré, faubourg et banlieue sont synonymes, bien que cette dernière puisse être grande ou petite, proche ou distante, et non pas nécessairement une zone de caractère urbain. C'est dire que mur d'octroi, contour et symbolique s'effacent en même temps. La confusion généralisée s'étend du restaurant de Paris à Asnières, à l'euphorie du secrétaire des chemins de fer de l'Ouest, les lignes de banlieue, c'est notre boulevard intérieur. Alors, face à cette indifférenciation, il devient d'autant plus impératif de se placer et d'en faire une image. La banlieue peut être représentée sous l'angle de la complaisance ou du cauchemar. L'essentiel fut de donner une forme à cette banlieue illisible, ne soit-il qu'en créant des cercles concentriques supplémentaires pour renforcer le didacticisme encyclopédique régi par le centre. L'imaginer, c'est construire une prise de connaissance à l'encontre de sa prétendue incohérence, c'est rendre visible le visuel angoissé de l'espace neutre, c'est finalement vouloir dominer l'inquiétude et ce trouble du moment que Zola se proposait de peindre. Il va sans dire que si le moderne se situe dans ces terrains vagues, Zola n'est pas le seul écrivain à les décrire. Comme l'a bien noté Philippe Hamon, la prédilection pour ce territoire amorphe se retrouve chez beaucoup de romanciers réalistes et naturalistes. Chez Zola, toutefois, une telle prédilection, dans le vrai sens du terme, ne semble pas avoir préexisté. Dans un long article consacré à la banlieue, dans un article qui date de 1878, l'hostilité de Zola est radicale. Et je cite, « Je ne connais rien de si laid ni de plus sinistre que cette première zone entourant Paris. » Fin de citation. Dans son évocation de cette ébauche monstrueuse de cité qui s'indique, la prise de position de Zola anticipe celle d'un Louis Baron. La même ironie vise le goût de la campagne, illusoire chez les Parisiens. Ses propres images, les images de Zola toutefois, nuancent celles de la polémique. À l'arrière-plan des familles sur le gazon, et je cite ce même article, « Des usines dressent leurs hautes cheminées de briques qui coupent le paysage et le salissent de longs panaches de fumée noire. » Et qu'une telle représentation ne soit pas arbitraire est confirmée par la fin d'une étude racontant la découverte de la banlieue par, et je cite, « toute une bande de peintres ». C'est ce qu'a souligné d'ailleurs Henri Mitran en insistant sur le fait que la confession de Claude marque le moment où l'imagination visuelle de Zola s'est affranchie des influences livresques et romantiques. Et tout en admettant d'autres, la lecture de Jérémie Lacerteux par exemple, il est évident que ce regard de peintre ne peut s'expliquer qu'en ayant recours au contexte dans lequel Zola travaillait. Il vaut la peine de répéter toutefois qu'il ne s'agit pas de rapprocher le découpage de Zola et celui de tel ou tel tableau. On pourrait bien le faire, à commencer par le train dans la campagne de Monet, facilement superposable à la description de Saint-Ouen dans les dernières pages de l'œuvre. Quand le train roula avec son fracas de tonnerre, on distingua nettement, comme sur un transparent d'ombre chinoise, les découpures des wagons jusqu'aux gens assis dans les trous clairs de fenêtres. Et la ligne redevint nette, un simple trait à l'encre coupant l'horizon. Il est décevant, sans doute, que c'est en faveur d'un Daubigny en particulier que Zola s'oppose souvent au paysage classique. Il n'en reste pas vrai que les rapports dialectiques entre texte et image fonctionnent à un niveau qui dépasse la connaissance intime ou l'écho inconscient. D'un côté, il est certes nécessaire de se pencher sur une visualité spécifique. Zola, en constatant un processus selon lequel le mot éveille une image, ou peut-être éveillé par l'image, Zola lui-même, et en dépit de la matérialisation à outrance dont il se vantait, Zola devait admettre, c'est au docteur Toulouse qui l'avoue, que, et je cite, « le relief de l'image est d'une exactitude, d'une intensité inouïe, puis l'image s'efface, disparaît, cela s'en va ». Alors d'un côté, il faut s'interroger sur cette visualité propre à l'écrivain. De l'autre, on doit insister, comme le fait Jean-Pierre Leducadine, sur ce phénomène culturel d'une nouvelle représentation de l'espace. Celle de la banlieue, chez Zola, ne peut pas être séparée d'une vision structurante pour laquelle le neutre est problématique. Si la banlieue est le gris, elle n'est pas du tout dans le goût de Zola pour les alternances et la symétrie, à commencer par le noir pondéré avec le blanc, la province avec Paris. À la différence de Huysmans, savourant les deux pôles contraires du paysage parisien, le square maquillé du parc Monceau et les terrains vagues de Montmartre et des Gobelins, Zola tend à élaborer une opposition d'origine balzacienne entre la ville et la campagne. Dans le dossier préparatoire de beaucoup de ses romans, on le voit se ménageant de telles oppositions. Promenade hors barrière pour Gervaise, un dimanche à Asnières pour Nana. À ce stade génétique, effectivement, on retrouve une conception de la ville à l'ancienne mode, faisant de l'agglomération urbaine un tout défini et fini. Une telle unité fondamentale est supposée d'ailleurs dans le point de vue qui tend d'embrasser le panorama parisien, que ce soit délégué à Saccard dans La Curée ou à Hélène dans Une page d'amour. Pour Zola et les peintres, Montmartre fournit une perspective exceptionnelle. Mais tout dépend, ainsi que le démontrent ces deux prises de Van Gogh, lui-même lecteur assidu et des Misérables et de l'Assommoir, les échanges vont dans les deux sens évidemment, tout dépend de la focalisation et du point de vue. Car c'est en banlieue qu'antithèse et harmonie d'ensemble se brouillent, et cela de façon multiple, troublant, pourrait-on dire, pour un écrivain qui s'était formulé l'ambition de tout voir afin de tout connaître et de tout dire. Le trouble de la vision, le trouble du moment, et même ces coins inquiétants notés dans la banlieue de la Confession de Claude, minent la finalité encyclopédique. Littéralement, la banlieue est caractérisée par l'inachevé. Là, cartographie, compartimentage et taxonomie sociale s'éparpillent. Celle qui désoriente Gervaise, ou les numéros manqués, semble nier l'effort classificateur, son arithmomanie, la logique mathématique de Zola. La banlieue est donc, et ce n'est pas sa moindre importance, la banlieue est un espace qui rend plus urgente une systématisation compensatoire, une retranscription en topographie lisible, une vue plongeante. Dans l'assommoir, l'instable ne reparaît qu'en dehors de la croisée connaissable du quartier de la rue de la Goutte d'Or. Même encadré par la voix du narrateur, l'itinéraire précis de Gervaise, du côté de la butte Montmartre, autour d'un arbre mort très symbolique, cet itinéraire se retrace très difficilement. Car ce qu'il faut noter, c'est qu'à travers le regard discontinu du personnage, les images rurales et urbaines se substituent les unes aux autres, sans pour autant établir une relation certaine entre les mots et les choses. Et ce sont ces mêmes images rustiques, des icônes même, rappelons-le, ces mêmes images rustiques qui constituent la décoration illusoire de la vie ouvrière, elle-même représentée dans un roman dont la préface parle de la force de ces images. C'est donner une signification supplémentaire, surchargée d'ambiguïté peut-être, au simple fait que nos faubourgs, dans l'assommoir, ne sont pas visibles depuis la colonne Vendôme. Ils ne sont qu'imaginables par le relais de toutes les images qui en remplissent le cadre. On pourrait quand même se demander dans quelle mesure Zola partageait le sentiment des peintres et d'autres que la banlieue était en effet un faubourg, c'est-à-dire un bourg faux. Un plaquage de signes humains sur la nature sans référence réciproque. Et il s'agit là d'autre chose qu'un simple jeu de mots. Même l'éminent littré se permettait de spéculer sur la notion d'un falsus burgus. S'il est plus ou moins conscient d'un tel paradoxe au sein de la tentative descriptive, c'est-à-dire rendre l'illusion d'un espace illusoire, il est certain que Zola s'insère dans ce que tu peux appeler une esthétique de l'horizon. Ce qu'il recommande dans les croquis parisiens de Huysmans, ce sont les paysages des horizons de banlieue. Ces mêmes horizons nus et désolés de notre banlieue qu'il avait aimé chez les Goncourt. Il admire l'austérité des horizons de Pissarro, les horizons de nos villes dans les tableaux de Manet, les horizons larges de Guillemet. Ceux de Jonkind, dans l'espoir, et je cite, de voir l'artiste continuer à peindre ces horizons chers à mes tendances vers un art tout moderne. Car ces peintres, selon Zola, se rangeaient contre la tradition des horizons fuyants et rêveurs ou les horizons harmonieux et corrects. Et c'est sans doute ici que se rencontre une véritable prédilection et la représentation de la banlieue. L'interdiction visant Hugo, toutes ces harmonies fouillants et rêveurs, ne saurait nier qu'à cette rencontre de deux modernités préside un grand spectre. Chez Zola, toutefois, l'horizon n'est plus celui de la rêverie hugolienne entre ciel et terre. Il faudrait plutôt le relier à une rêverie raconteuse, celle qui fait que la naissance de l'amour en tant que drame se situe en banlieue. On pense à Thérèse Raquin, à l'Assommoir. Le relier alors à une certaine poétique de l'espace romanesque, pour reprendre la formule d'Henri Mitran, dans laquelle l'interférence est la condition même de l'énergie narrative. La banlieue, évidemment, ne peut se concevoir qu'à l'horizon de la ville, qui en constitue à la fois son point de fuite et son centre d'intérêt si inquiétant précisément. Cette inquiétude s'exprime dans la débâcle d'un chaos que sont dans une page d'amour les faubourgs hors de la vue, ou, autre exemple, le chaos sans fin dans Paris, le roman. Au-delà de tous ces horizons à perte de vue, le visible et le connaissable se dérobent. La synthèse se refuse. Le réel ne peut que se faire deviner, le mot est de Zola, dans l'inexactitude qu'est ce lieu de la métaphore et de la métonymie. Sans doute, Zola regrette-t-il la ville fortement historisée et unifiée du romantisme. Dans la représentation de la banlieue, il se révèle sensible au fait que celle-ci est la négation, non seulement du concret monumental de Paris, mais aussi de la topographie délimitée et aussi triomphale de l'omniscience. Cette amorce de travail n'est pas à prolonger ici, alors terminons, mais dans ce sens de la négation créatrice, où l'image se substitue à la science. Tout commence, on le sait, dans une impasse. Depuis les travaux de Naomi Shore, on n'oserait plus dire que les rogons macquart s'ouvrent sous le signe de la fécondité, à moins qu'on se souvienne que ce fut Claude Bernard qui caractérisait la vie comme, et je cite, « la vie, un mot qui dit notre ignorance ». Le terrain vague de la fortune des Rougon est un espace indéterminé entre la ville et ce qui lui entoure, entre les bornes déterminantes de sa définition et la profusion sémantique de la nature. C'est là que se situe le puits mitoyen dont la surface sépare le jeu des reflets et le jeu des images de l'abîme du sans-fond. C'est un espace qui fonctionne, en principe, sous la tutelle ou le ban exercé par la ville. Mais il existe, en dehors du système fortifié, érigé par les forces de l'ordre et de la science. Il est marqué par une dynamique non socialisée et par l'équivoque, visité comme il l'est par des nomades qui mangent des choses sans nom. Ce serait dans cette même banlieue, féconde dans tous les sens, que la paternité verbale du docteur Pascal rend possible une élaboration imaginaire qui se substitue à l'émettement du surcollage. Zola savait qu'il plierait le cadre historique à sa fantaisie. N'oublions pas qu'au commencement, ainsi qu'à la fin de son histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, il y a des histoires qui essayent non pas de maîtriser le sens, mais d'en créer et d'en recréer autour du grand pourquoi à son centre. Notons enfin qu'en dépit de l'antipathie instinctive qu'il y a portée, Patrick Brady disait hier que Zola déteste la fragmentation, la banlieue semble être reconnue par Zola comme le terrain de l'art moderne. Dans l'œuvre, Claude Lantier y est attiré. Dans son tableau de la butte Montmartre, et dans son désespoir. L'ironie veut qu'il y soit enterré. Mais ce sont surtout les réactions de Sandoz qu'il vaut la peine de retenir. De même que Mathieu, dans Fécondité, qui aime l'immensité nue des espaces du quartier de Grenelle, Sandoz finit par apprécier ces vastes espaces entre la porte de Clignancourt et Saint-Ouen. Et non pas pour leur côté pittoresque, tout ce qui amusait l'œil pendant une flânerie à la Goncourt. 20 ans avant cette carte postale que j'ai retrouvée chez les bouquinistes, 20 ans avant cette carte postale où tout est fini et défini, Sandoz nous offre son propre tableau d'un terrain vide de banlieue, absolument dépourvu, comme il le dit, de ballades romantiques, dans lequel coexistent, sans se rejoindre, les symétries inhumaines de son temps et les débris grotesques d'un monde en dissolution. La prolifération des images n'y cède en rien à la précision du numérotage ou l'alignement des photographies du cimetière. Une route qui s'efface à l'horizon d'une campagne rase n'est nullement définie par une double clôture de palissades qui l'abordait. Et, je cite, « de vagues terrains s'étalaient à droite et à gauche ». Il n'y avait au loin que des cheminées d'usines et quelques hautes maisons blanches, isolées, plantées de billets. Et c'est au milieu de cette structuration en crise, les treillages arrachés, etc., en pleine banlieue, que le travail créateur prend un nouveau point de départ. C'est constaté que si, au sein des réels enjeux plastiques du moment, si la banlieue est un lieu d'échange et de convergence pour Zola et les peintres, c'est aussi un territoire qui dépasse de loin sa conception périphérique et subordonnée. Car elle est l'espace d'un désordre où naissent de prodigieuses histoires, un espace de la fiction, si vous voulez, où se recompose un ordre. La banlieue nous offre, en fin de compte, un espace allégorique où est représentée l'image de la constitution du texte et celle de la construction de ces images. Je vous remercie de votre attention.
Questions. Nous avons eu deux conférences tout à fait différentes. L'une sur les rapports entre Zola Raffali, le groupe des peintres et beaucoup de questions, probablement de précisions à demander à Joy qui va nous les apporter peut-être, et celle de Robert qui pose beaucoup plus de questions, de problématiques, de définitions qui mettent en cause tous les Rougon-Macquart. Alors je donne la, c'est cela, je donne la parole à ceux qui veulent intervenir sur ces deux communications. Allez. Moi, je vais poser aussi d'abord une question sur la définition même de la banlieue. Il me semble qu'il y a même au même moment banlieue et banlieue. Tu nous as parlé d'Asnières, d'Ivry, de cheminées d'usines, mais au même moment il y a le Plessis-Piquet, il y a Fontenay-aux-Roses. Il y a aussi la banlieue de l'indistinct, du neutre, etc., dont tu nous as parlé, mais aussi Nanterre dans le ventre de Paris. Nanterre qui est le lieu de la vie où Madame François rapporte tous les trognons de choux, les bouts des halles et fait de la vie. Donc la banlieue, c'est aussi la ville, le ressourcement, la régénération, etc. Alors je ne sais pas, il me semble qu'il y a peut-être aussi donc ces problèmes-là, peut-être de banlieue nord, de banlieue sud, de banlieue est, de banlieue ouest, et de date. Il y a dans le paysage même de la banlieue, dans ces 20 ou 40 ans, il y a eu très certainement des évolutions énormes. Qu'on a vu d'ailleurs à travers les tableaux.
Ben, je suis entièrement d'accord parce que Zola, quand il traverse la banlieue sud-sud-est pendant sa jeunesse, c'est vraiment un territoire idyllique. 10 ans plus tard, il dit que cet idylle hugolien n'est plus valable comme modèle. Tout a changé. Et on ne sait pas si c'est ben, le paysage qui a changé ou c'est lui qui a adopté une prise de position différente envers la notion même d'une banlieue. Évidemment, cette banlieue est en pleine mutation pendant tout le siècle.
Le Plessis-Piquet, Fontenay, ça n'a pas changé. Les guinguettes, les choses de cet ordre-là, ça n'a pas changé. C'est peut-être la même chose. Alors, il y a peut-être des choix.
Il y a des choix de Zola. De point de vue et de...
Voilà.
Choisit tout à fait autre chose, c'est-à-dire propose de considérer le passage comme le lieu du moderne, ce qui est véritablement le contraire de la banlieue, puisque la banlieue c'est la dissolution, tandis que le passage c'est le lieu de la montre et de la spectacularisation. Alors, quelle est votre position par rapport aux thèses de Benjamin qui touche évidemment la même époque ? Là, vous devez nous dire quelque chose, il me semble, ce serait intéressant.
Bon, alors il me semble d'une certaine façon que la banlieue se pose beaucoup plus que la ville comme allégorie. C'est-à-dire que hier, Janis Pes nous parlait du monde et du demi-monde. La banlieue, pour moi, c'est vraiment ce territoire entre définitions, si vous voulez. Et je pense, ben, c'est intéressant que les peintres, finalement, se sont éloignés du Paris monumental où l'image de la ville avait été, si vous voulez... elle-même monumentalisée, l'image de Paris, qui était d'ailleurs l'ambition de Haussmann, Haussmann qui n'aimait pas le neutre, finalement, de la place de la Concorde, essayer d'en faire des images. Et c'est possible que les artistes se sont finalement été crus coincés par cette prolifération d'images qui se répétaient. Dans un sens, ça s'est arrivé aussi pour la banlieue, c'est-à-dire que faire un Raffaelli, ça devenait finalement classique. La banlieue elle-même faisait partie de l'iconographie connue.
Ils ont fait les gars.
Je sais pas si on...
Il me semble justement qu'on devrait regarder non pas vers le passé, c'est-à-dire le Paris auquel fait allusion Benjamin est quand même plutôt celui de Baudelaire que celui de Zola, mais regarder vers l'avenir. Et votre propos, je crois, signale qu'il s'établit un discours là qui est permanent pour le XXe siècle en particulier. Je pense à l'unanimisme, enfin, je pense à Céline, je pense jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale à l'œuvre de Sandrard sur la banlieue de Paris, dans un contexte photographique, les photos de Doisneau par exemple, sur la banlieue, tout le cinéma de l'avant-guerre, les films de Renoir par exemple. Il me semble qu'il s'établit une nouvelle conception de l'espace qui n'est plus en effet la ville, qui n'est pas la campagne, qui comprend une variété de concepts de la banlieue et une humanité tout à fait différente aussi de celle de la ville, enfin de l'urbanisme justement en développement de Haussmann. C'est postérieur à cela, à mon avis. C'est vraiment un état de malaise qui s'instaure comme thème littéraire et artistique, et qui n'est pas forcément celui des peintres impressionnistes uniquement, qui se poursuit ensuite. Je crois que c'est une vision qui va vers l'avenir, plutôt que comme une espèce d'état de choses qu'on peut observer dans l'instant. Vous avez souligné, je crois, vous avez indiqué que les limites temporelles sont aussi importantes que le manque de limites spatiales dans ce discours. C'est pas la question que je pose, mais
non, je suis...
ça monte dans le sens. Si on regarde la littérature,
oh, voilà.
C'est désolé. C'est désolé, je crois.
Si on peut discuter, on peut discuter. Je voudrais aller dans le sens de Colette Becker, qui faisait remarquer, et dans le sens aussi de ce qu'il vient de se dire.
Je voudrais aller dans le sens de Colette Becker et de la dernière intervention en... faisant aussi porter l'accent sur la situation historique. Il me semble que la banlieue, comme on vient de dire d'ailleurs, la banlieue, l'image de la banlieue, il faudrait voir ce que veut dire dans ce cas-là « image », parce que ça peut être une image de l'imaginaire ou ça peut être une image qui est une représentation des peintres. Et je pense que les deux images se télescopent, pour ainsi dire, et finissent par coïncider... et finissent par coïncider pour nous, c'est-à-dire que nous voyons l'image que les peintres contemporains de Zola donnent de la banlieue à travers l'imaginaire de la banlieue que nous a restitué Céline, que peut nous restituer aussi Jules Romain à certains moments, etc. Alors il me semble que c'est ce mélange-là, ce mélange optique, mais de deux optiques, si vous voulez, qu'il faudrait peut-être définir. Et d'autre part, Colette Becker signalait que dans le ventre de Paris, il y avait une image de la banlieue qui était assez antithétique à celle que vous privilégiez, puisque c'était Nanterre. Et en somme, il faudrait... il faudrait juxtaposer ces deux images de Claude aussi, c'est-à-dire le Claude que nous voyons dans le ventre de Paris et puis le Claude que nous voyons dans l'œuvre. Ce n'est pas finalement tout à fait le même et il semble qu'il y ait un changement tout de même assez considérable puisque Claude dans le ventre de Paris trouve que l'art moderne se situe dans la perspective ouverte par les Halles et face à Saint-Eustache. Par conséquent, là, on ne peut pas dire absolument que l'art moderne se situe dans la banlieue. Il y a tout un ensemble de questions. Je crois qu'il faudrait distinguer.
Mais dans la modernité, qui n'est pas le passage à l'époque, qui est la construction de fer et de verre, qui sont les Halles, qui sont les gares, qui sont quand même un sujet privilégié des peintres de l'époque aussi, et puis qui sont les grands boulevards, les grandes percées haussmanniennes, dont on a plusieurs tableaux aussi, des points de vue de hauteur, je pense à des Pissarro ou autres.
Mais dans le dossier préparatoire de Le Ventre de Paris, précisément, il y a Zola qui dit « Je me ménage une échappée sur la campagne ». Et je crois que ces petits maraîchers où on fait pousser des choux, c'est pour lui, enfin, c'est pas exactement la campagne, mais c'est déjà... postuler sur cette antithèse de l'Espagne.
Oui, c'est sûr. C'est, c'est la vie par rapport au hall qui ne sont que la consommation. Hein. Tandis que Madame François est autre chose que la consommation.
C'est la production.
Pardon ? Oui, c'est la création. Oui, Jean-Foulaine.
Une question à Joy. Si je peux poser une question à Joy, tu as parlé de l'éloignement de Raphaël pour Zola de 96.
Oui.
D'accord. Donc, est-ce que quand même, ça n'aurait pas été un éloignement général, dans le sens que d'après l'article que Zola avait écrit dans son dernier salon, où il avait écrit notamment que cela est
Oui, peut-être. Mais puisqu'il y avait justement des indications que cette amitié s'était finie entre les deux, donc j'ai préféré faire une interprétation personnelle. Et évidemment, contre cette ambiance, Zola était entouré vraiment d'ennemis à partir de 96, évidemment. Mais il y avait justement, entre ces deux-là, il y avait quand même ce problème, le problème de Goncourt. Donc, j'ai préféré insister là-dessus. Mais oui, vous avez raison.
Vis-à-vis de ce que Joy nous a présenté, en particulier l'opinion que Raphaël pouvait avoir sur les mouvements de Zola vis-à-vis des impressionnistes, je crois que votre propos signale que les peintres, c'est-à-dire Raphaël en particulier, avaient une vision beaucoup plus juste de ce qu'était l'impressionnisme, ou ce qu'on préfère appeler maintenant plutôt la nouvelle peinture, que des hommes comme Zola. Pour reprendre les propos d'Antoinette Erard, si on se place que du point de vue de Zola, la vision de l'impressionnisme est très inexacte et assez fausse, très incomplète. Ses jugements sur les grands peintres impressionnistes sont pour le moins hâtifs et impressionnistes même. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir, après lui ayant exposé avec le groupe impressionniste, de nouvelles définitions qui seraient beaucoup plus importantes pour réutiliser toujours ces termes d'impressionnisme, naturalisme, etc. Quand on parle de la peinture, je crois qu'un colloque comme celui-ci devrait se poser le problème. Je n'aime pas beaucoup voir les littéraires toujours avoir des complexes vis-à-vis des critiques d'art et croire que les critiques d'art possèdent la vérité. Nous possédons une certaine vérité qui nous vient de lectures différentes. Je pense que votre propos introduit, étant donné ce que dit Raphaël, des questions importantes sur les classifications, sur les écoles, sur une vision de la peinture qui était une vision nouvelle et qui est mal étudiée encore aujourd'hui.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois aussi que ce que Raphaël a proposé pour remplacer justement le terme naturaliste était au fond seulement une espèce de variation. C'était sa version à lui du naturalisme. Il ne créait dans sa définition rien vraiment de nouveau. C'était vraiment un lex du naturalisme, je crois.
Encore des questions? Non? Si. Nicole Savy, oui.
Juste pour revenir un petit peu sur les banlieues, pour vous demander, vous avez évoqué Hugo et les Misérables, en parlant, si j'ai bien compris, du meurtre des veuves et des villes. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu?
Les rapports hugoliens à la banlieue, ben, pas vraiment, je ne suis pas spécialiste d'Hugo, mais à ce que je comprends, Hugo avait revisé le texte des Misérables en 1861 en définissant la banlieue comme un lieu de lamentation, de mélancolie, de rêve et d'idylle. Et c'est vraiment ce modèle que dans ses premiers comptes rendus, Zola, il dit que le modèle hugolien n'est plus valable. Alors c'est vraiment Hugo vu à travers la critique de Zola, là où il mentionne explicitement la banlieue.
Tout au moins, c'est la très grande banlieue. C'est Montfermeil et autres.
Le problème est déjà de définir la banlieue.
Voilà.
Et bon, parce que je pensais tout à l'heure en t'écoutant. Voilà, c'est ça. Et bon, parce que la banlieue, bon, par exemple, est-ce que Bennecourt, bon, puisqu'on parle de Zola, est-ce que Bennecourt, c'est la banlieue ou non? Parce que, par exemple, la position de Claude Lantier à Bennecourt a été, au départ, Bennecourt était un lieu totalement euphorique. Et il est devenu, au bout d'un an ou un an et demi, un lieu totalement disponible. Alors, il y a quelque chose. Bon, alors, le problème est de savoir si Bennecourt est considéré comme banlieue ou non. Voilà.
Quand même un peu loin.
C'est possible que la banlieue.
Et avec précisément une très forte prégnance du fait que tout jeune Zola a toujours vécu justement aux confins. Dans ces faubourgs qui sont des lieux justement assez indéterminés, ce mélange des classes sociales où doit se constituer une identité, la sienne, dans des territoires assez indéterminés.
Oui, mais où le sordide n'existe pas, parce que le sordide appelle ça, c'est dans la ville.
Effectivement, oui.
Oui, mais aller habiter au faubourg est signe de dégradation sociale quand on a habité en ville, comme les Zola. Quand ils sont allés au faubourg, ça a été autre chose.
Oui, demeurer chez les autres, c'est un
voilà. Bon, malheureusement, je crois qu'il faut que nous arrêtions là, que je donne la parole à mademoiselle ou madame, mademoiselle Laurent.
Béatrice Laurent,
qui va nous parler des éclairages du Nord sur les tableaux du rêve. Avez-vous des projections?
Oui, s'il vous plaît, si vous voulez faire le noir.